émission que vous pourrez réécouter demain en rediffusion jeudi 23 mai de 9h à 10h et qui sera également disponible sur les plateformes de podcast ainsi que sur radiogalère.fr. Chères auditrices, chers auditeurs, l'état du monde vous préoccupe et les tracas du quotidien aussi. Quelle solution à nos problèmes perso et globaux? Comment concilier fin du monde et fin du mois? Comment trouver sa juste place dans un monde incertain? Chaque mercredi de 19h à 20h, nous donnons le micro à une personne qui propose sa façon de répondre à ces questions. Une actrice ou un acteur des transitions écologiques et solidaires de Marseille et de sa région. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. L'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation à créer sa juste place, du moi au nous et du nous au tout. Je suis Marin Moffret, accompagné ce soir par Claire Mailloux. Bonsoir Claire.
Bonsoir Marin, bonsoir tout le monde.
Et par Mathieu, est-ce que tu peux nous parler depuis la régie?
Oui, bien sûr, bonsoir à toutes et tous.
Et notre invité ce soir, c'est Stéphane Crandall. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Claire, bonsoir à toi Marin, bonsoir à tout le monde, bonsoir Mathieu.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, pour te présenter un tout petit peu, eh bien, je vais reprendre la façon dont toi-même tu te présentes. Ta mission, c'est de convaincre de passer à l'action, et notamment en créant des parcours en ligne sur des questions, enfin des parcours qui soient innovants pour valoriser les retours d'expérience et créer des super-héros de l'écotourisme. Parce que tu penses qu'on ne juge pas chaque jour à la récolte, mais aux graines que l'on a semées. Et ça, cette question des graines, c'est quelque chose qui nous est cher sur la Forêt des Possibles, parce qu'on a aussi cette allégorie-là. Et donc, tu travailles sur vraiment la question de l'écotourisme avec le réseau des parcs naturels régionaux. Et ce qu'on va proposer aux auditeurs et aux auditrices, à qui on propose chaque semaine de trouver leur juste place, elles et eux aussi, c'est de questionner en fait quel a été ton parcours, quelles sont les questions que tu t'es posées, ce à quoi tu participes, et puis à ton échelle, comment est-ce que ça transforme la société. Est-ce que ça te va comme programme du soir?
Parfait, merci beaucoup de me permettre d'en parler ce soir, merci de votre invitation, j'ai hâte de partager ça avec vous.
Et bien génial Stéphane, et donc sans plus attendre, on commence donc un peu cette première partie qui est celle de la présentation de ton parcours, du moi vers le nous, et donc est-ce que tu as envie de nous partager un peu quelles ont été les prémices de tes engagements?
Quelque part oui, et d'autant plus que je viens de fêter mes 50 ans, donc c'est une période charnière pour moi, une période de constat et peut-être de bilan, en tout cas à mi-parcours on va dire. Mais alors qu'est-ce que tu veux, que je te raconte depuis le début, comment tout ça a germé en moi pour arriver à ce que tu viens de décrire?
Imagine-toi la personne qui t'écoute et qui se dit mais en fait moi aussi j'ai envie de m'engager, peut-être qu'en fait ce que tu vas partager ça va être quelque chose qui va rentrer en résonance profonde en disant mais moi aussi je me suis posé ces questions-là.
Alors au risque de vous décevoir, très très tôt en fait ça a fait sens chez moi et mon histoire elle est assez simple. Depuis très très jeune je me suis toujours passionné pour le vivant. Et au moment de faire ces études, je suis devenu écologue. J'avais fait de la biologie des écosystèmes à Jussieu. J'étais persuadé que c'était la manière idéale d'apporter ma contribution, de protéger, préserver le vivant. Et patatras, en fait, je n'ai pas trouvé de taf, je n'ai pas trouvé ma voie à ce moment-là. Donc, je me suis retrouvé happé par le commerce et je me suis retrouvé à la tête d'un magasin Nature et Découverte. Je suis rentré, ça sentait bon, il y avait l'air d'y avoir une bonne ambiance. J'y suis resté 5 ans. Et là, j'ai découvert de façon très pragmatique comment on pouvait faire ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE, du développement durable. Et c'est ce que j'ai fait pendant une première partie de ma vie professionnelle, c'est de former et de conseiller les entreprises dans cette démarche de développement durable.
Est-ce que tu accompagnais spécifiquement Nature et Découverte ou d'autres industries, d'autres secteurs?
Finalement, pendant 5 années, j'ai beaucoup appris dans cette entreprise qui était ce qu'on appelait les entreprises agiles avec un management participatif. Moi, j'ai tout découvert. Hein. J'arrivais des petites fleurs et des animaux et je me retrouve catapulté là. Et je leur dois beaucoup parce que quand j'ai quitté cette entreprise, j'étais à même en fait, d'aider les autres entreprises, quelles qu'elles soient, imprimeries, industrielles ou de toute taille et de tout secteur, à se poser les mêmes questions et à définir justement une trajectoire vers quelque chose qui ressemblerait à de la soutenabilité ou de la responsabilité. Et ça, je l'ai fait dans des bureaux d'études pendant 5 à 10 ans. Là, j'ai commencé à me sentir utile, mais je voulais peut-être le faire autrement. Donc, j'ai cherché à être acteur peut-être au niveau des territoires plus que des entreprises. Et c'était le début des plans climat. C'était les premières prises de conscience d'un dérèglement climatique. Et pour toutes les agglos de plus de 50 000 habitants, j'ai pu, pendant 5 à 6 ans, piloter justement ces plans climat. Et cette fois-ci, je m'adressais plutôt à des élus, à la population, plutôt qu'à des acteurs économiques.
Est-ce que tu peux préciser en quoi ça consiste un plan climat exactement ?
Alors, tu me renvoies plusieurs années en arrière, mais le plan climat, ça vise à faire un scan d'un territoire. Par exemple, là, je parlais d'une agglomération, mais ça peut être un département, une commune ou une région. Et le scanner d'un point de vue, au niveau de l'ensemble de ces activités, quel est son impact carbone ? Mesurer aussi la manière dont elle consomme de l'énergie et puis dessiner un petit peu à travers une étude de vulnérabilité quelles seraient ses perspectives à 10 ou 20 ans pour justement aller vers une trajectoire plutôt bas carbone. Donc on ressort de là normalement avec un programme co-construit avec la population parce qu'il y a une grande partie de concertation qui vise à aller chercher au plus près des territoires et des enjeux prioritaires du territoire les solutions dont les élus devraient s'inspirer pour bâtir un programme sur 5 à 10 ans.
Et donc tu as fait ça pendant un certain temps et puis après ton chemin a continué et tu me partageais hier que ce qui a été un peu un fil rouge, ça a été la question d'être utile.
Oui, alors je cherchais à être utile auprès des entreprises et puis après auprès des territoires et je me suis rendu compte en fait qu'il était peut-être un petit peu trop tôt. Les stratégies carbone, quand elles sont arrivées au début, elles faisaient peur. Et moi, j'étais un artisan justement de la peur et des perspectives anxiogènes. Je m'en suis rendu compte à ce moment-là et j'ai voulu changer de trajectoire pour peut-être travailler à plus petite échelle. Et j'avais envie de vendre du bonheur, quoi. J'avais plutôt envie d'aider les gens à trouver des perspectives, à renouveler leurs imaginaires pour construire de nouveaux récits plus optimistes et enthousiastes. Et Small is Beautiful, je me suis dit, voilà, je vais arrêter les stratégies territoriales, la planification territoriale. De toute façon, les élus ne sont pas prêts, ils ne nous écoutent pas. Et je vais essayer d'aider les gens à aller mieux pour peut-être... à ce moment-là, insuffler à l'économie quelque chose de nouveau. Et aussi bizarre que ça puisse vous paraître, je me suis dit, on va faire de la permaculture en entreprise. Donc j'ai créé Jardilinks pour accompagner sur leur lieu de travail les gens avec une reconnexion avec la nature, eux-mêmes et avec les autres. Et c'était le meilleur moyen que j'ai trouvé de parler d'économie circulaire, de transition écologique, c'était de repartir du bien-être des gens sur leur lieu de travail à travers justement cette activité de permaculture.
Et c'était à quel moment que tu t'es dit que vendre de la peur, c'était pas la stratégie que tu voulais adapter ? Parce que j'ai l'impression que ça fait toujours un peu des effets un peu de va-et-vient. Tu vois, il y a eu la période 2018-2019 qui était très forte, on en parlait beaucoup, il y avait beaucoup de marche climat. Là, en ce moment, on en parle un peu moins. Mais en 2008, il y avait aussi des moments écolos. Dans les années 70, il y a eu des moments écolos. J'ai l'impression que c'est vraiment des vagues avec des prises de conscience où ça fait la une de l'actualité, puis après ça repart.
Je pense en fait que le plus intéressant de ces 30 dernières années, c'est de regarder l'apport des sciences cognitives. C'est-à-dire que le constat depuis Durmont en 70, on le partage tous. On l'écoute plus ou moins, on l'a plus ou moins bien compris, mais il n'y a rien de nouveau. Ça fait depuis les années 70 qu'on sait où on va aujourd'hui. Par contre, on a mis beaucoup de temps à comprendre comment on pouvait insuffler le changement justement dans les pratiques économiques, dans les pratiques individuelles. Et pendant des années, je suis tombé dans le panneau, moi, de vouloir créer justement une urgence à travers peut-être des... c'est ce qu'ont fait beaucoup d'acteurs dans les médias. Et moi, je ne pouvais que constater en face de moi que ça participait à l'immobilisme, en fait. Ces constats anxiogènes, ça faisait peur aux gens et ça les empêchait de passer à l'action. C'est là où moi, perso, voilà, je me suis décidé d'utiliser d'autres outils qui redonnaient un petit peu le sourire pour aider au passage à l'action.
Et donc, c'était en quelle année ? Parce que par exemple, aujourd'hui, la fraise du climat s'appuie sur ça et elle cartonne, quoi.
Ouais, on va dire que chez moi, le déclic, il s'est fait un petit peu avant les années 2010. Ça fait une quinzaine d'années que je me rends compte que j'ai beaucoup plus de résultats avec des processus participatifs qui essayent de définir un avenir plus désirable qu'anxiogène. Et à partir de là, qu'on soit dans un hôpital, un ESAT, une banque, ça marche toujours beaucoup mieux. De dessiner un avenir qui fait envie et de se poser la question de comment on fait pour y aller.
Là, on a parlé de la question de créer cet avenir favorable, c'est les nouveaux imaginaires. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. On aura vraiment un moment dédié pour parler de grandes thématiques de société. Tu parlais de la permaéconomie qui était aussi appliquée à l'échelle des organisations et des groupes humains. Ce sera quelque chose qu'on abordera un peu plus tard. Mais là, ce que je te propose, c'est donc ce passage progressif de ton parcours vers ce sur quoi tu agis en ce moment. Et donc, tu travailles pour le réseau des parcs régionaux de la région Sud dans le but de pouvoir proposer un certain nombre de parcours qui font de toutes les personnes qui vont être sur ces parcs, que ce soit des clients, des usagers, des personnes, des professionnels, et puis les administrations qui vont les gérer, d'être des super-héros de l'écotourisme. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce que c'est pour commencer ce projet ?
Bon, donc tout naturellement, vous l'avez compris, c'était la suite de ma question de comment je peux être utile, où je peux être utile. Et je me suis rendu compte, grâce à cette opportunité, grâce à cette belle rencontre avec le réseau des parcs et les 9 parcs naturels régionaux, que le tourisme était un levier fondamental pour l'économie, parce que c'est une expérience qui nous touche tous en tant que consommateurs, qu'usagers. On consomme du voyage, on consomme du tourisme, et qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur quelle solution pour le tourisme de demain. Et alors j'ai eu une chance incroyable, c'est que dans les parcs naturels régionaux, il y a la possibilité d'innover et d'expérimenter. Et si j'y suis rentré par la coordination du Fonds Tourisme Durable qui arrivait juste après le Covid, c'était France Relance et l'État qui voulaient aider justement cette filière professionnelle. J'ai surtout constaté en fait que déjà dans les territoires, au niveau des hôteliers, des gîtes, des chambres d'hôtes, des restaurants, il y avait déjà des gens qui faisaient des choses extraordinaires et qui n'avaient pas attendu justement cette crise Covid pour relever le double défi qui arrivait pour le tourisme. C'était une révolution d'abord numérique. Il a fallu réinventer la manière de toucher les consommateurs, et une révolution, en tout cas, c'est une révolution, comment dire, écologique, tout simplement, parce que les attentes territoriales, les attentes des clients, les attentes de leurs partenaires avaient varié, et il fallait apporter une réponse et numérique et écologique.
Tu as parlé de consommateurs. Est-ce que c'est un terme que tu emploies à escient ? Parce qu'on pourrait très bien dire que sur la question des imaginaires, est-ce que c'est pas un consommateur, un consommateur peut-être, ou un usager ? Je trouve que... Quel est ton regard sur ce mot-là ? Parce que finalement, ça fait très consumériste finalement.
Mais qu'est-ce que c'est d'autre finalement pour la majorité des gens ? Tu parlais d'usager, j'aime beaucoup moi ce mot-là, on l'utilise beaucoup dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire, on parle d'usager justement pour le différencier du client ou du patient. Mais là, force est de constater avec l'explosion du voyage low cost, avec le besoin de se décérébrer le temps d'un instant pour éviter le burn-out, que le voyage n'en est pas un. En fait, les gens partent pour aller le plus loin possible et le moins cher possible, pour retrouver les mêmes conditions qu'en bas de chez eux. Donc non, il y a une consommation du voyage bien plus que... c'est de ça dont moi j'aimerais qu'on parle. C'est quelque chose qui ressemble plus à de l'expérientiel, à du partage, et tout ça en respectant justement les territoires dans lesquels qu'on vient découvrir.
Et alors, comment est-ce que concrètement est-ce que ça se propose que ces expériences ? Là, tout à l'heure, tu nous parlais d'un site en ligne. Peut-être que tu peux même m'en donner le lien exact.
Alors, tout à l'heure, je disais que j'avais beaucoup de chance d'être tombé dans l'écosystème des parcs. Effectivement, à un moment donné, on s'est posé la question, pour répondre à ce double enjeu, à ce double défi dont on parlait tout à l'heure, comment faire cette transition numérique et cette transition écologique ? Comment accélérer le passage à l'action? Comment aider en fait ces professionnels du tourisme à faire cette transition? Et sur la base de tout ce qu'on s'est raconté tout à l'heure, moi, mon simple constat, c'était que ce qui était le plus inspirant pour passer à l'action, c'était d'écouter le témoignage de ceux qui l'avaient déjà fait et de comprendre comment ils avaient réussi à le faire, tout ce qu'ils avaient à y gagner et peut-être même en gagnant du temps, en contournant des freins qu'eux avaient rencontrés. Donc on s'est focalisé sur les moyens, comment faire en sorte d'accélérer le passage à l'action, et il n'y avait rien de mieux justement peut-être que des témoignages filmés. Donc on a imaginé des petites capsules de 2 minutes qui pourraient être disponibles sur un parcours qu'on a appelé le parcours éco-solution, où on peut entendre une trentaine de super-héros de l'écotourisme témoigner face caméra de leur passage à l'action réussi. Donc ce parcours, il est en ligne. L'URL, c'est éco-solution au pluriel -pnrsud.fr. Et vous arrivez dans un espace où on vous propose une expérience immersive où chaque professionnel du tourisme, alors ça a été pensé par la région sud et le réseau des parcs pour les professionnels de la région sud, mais les professionnels du tourisme de la région sud, mais c'est en ligne, donc ça peut être accessible à qui le veut. Et je dirais même plus que même si vous n'êtes pas un professionnel du tourisme, ça peut vous inspirer ou vous donner envie d'aller dans certaines directions. Donc quand vous cliquez en fait quand vous tapez cette URL sur Internet, vous arrivez dans une sorte d'univers ou du parking au jardin en passant par la cuisine et les chambres. Vous allez pouvoir, en fonction de vos centres d'intérêt ou de ce que vous avez identifié comme enjeu prioritaire, vous allez pouvoir aller cliquer sur des petites pastilles rouges qui vont vous permettre d'accéder à un certain nombre de fiches conseils, des fiches pragmatiques. On a voulu ça très synthétique, un recto verso avec plein de liens, avec plein de rubriques pour passer à l'action. Et puis surtout, c'est ce que je disais à l'instant, vous y trouverez des vidéos de ces super-héros qui vous racontent comment justement passer à l'action.
Et alors, rien de mieux que de pouvoir personnaliser ces vidéos-là. Il y en a une que tu as décidé de vouloir nous faire écouter. Est-ce que tu peux nous dire laquelle c'est et pourquoi tu as choisi celle-ci?
Oui, alors elle est à mon avis assez intéressante parce que bon, donc c'est un camping. On vous emmène en Provence verte, du côté du camping de la Cigalière. Et c'est Cynthia qu'on va entendre, qui est la co-gérante avec son compagnon de ce camping. Et en fait, ça permet aussi de souligner l'importance en fait de l'évolution du contexte réglementaire. Elle va vous parler du compostage. On va l'entendre quelques instants. Mais voilà aussi quelque chose qui vise à accélérer la transition écologique de ces professionnels du tourisme, c'est les contraintes réglementaires qui chaque année vont se durcir un petit peu. Là, c'est la loi AGEC qui, depuis le début de l'année, invite tout le monde à composter ses biodéchets. Mais en 2026, on le sait déjà, ce sera l'obligation dans le cadre de la loi climat pour tous les hôtels et les campings d'afficher l'étiquette environnementale. Et je vous parlerai peut-être un petit peu plus tard d'une expérimentation, une fois encore, là, qu'on est en train de faire avec les parcs. Mais le contexte réglementaire, voilà, invite aussi à accélérer le passage à l'action. Donc, si c'est possible, ce que je vous propose, c'est d'écouter peut-être le début du témoignage de Cynthia.
Avec plaisir.
Mon super pouvoir écologique, c'est qu'on ait un camping zéro déchet. Quand nos clients arrivent, on leur explique notre façon de penser et on les sensibilise au tri, au recyclage et au compost. Donc pour cela, on leur fournit un bio-seau, des sacs biodégradables et des sacs de tri pour qu'ils fassent le tri directement à notre espace. L'avantage de demander aux clients de trier, c'est que ça nous permet d'économiser 10 tonnes d'ordures ménagères par an. Et en plus, grâce à ça, grâce à leur compost, on se retrouve à avoir de la matière, du terreau, qui nous sert après pour nos jardinières et nos plantes dans le camping. Un dernier avantage, c'est le fait de sensibiliser les clients. Donc ils viennent sur place, on leur fait des animations, ils ont des questions-réponses à faire lors des petites animations, et ils repartent avec cette empreinte de vacances, où j'espère que chez eux, ils continueront à trier et à composter.
Merci à toi, Mathieu Cheminal, en régie, de nous avoir rendu possible l'écoute de cette vidéo qui était impeccable. Et donc, comme tu nous l'expliquais, Stéphane Crandall, c'est Il y a plein de petites vidéos comme ça qui peuvent s'écouter en fonction des thématiques. Et on invite celles et ceux qui nous écoutent à aller sur ce site. Donc peut-être que tu peux nous le repréciser parce que la répétition est toujours bonne.
Oui, et puis là, il vous manquait l'image. Il faut que vous alliez voir l'image. Hein. C'est top. Hein. Ils sont vraiment très, très inspirants. C'est super éco de l'écotourisme. Donc vous les trouverez en tapant éco-solution au pluriel -pnrsud.fr.
Et donc, c'est disponible sur cette URL que tu viens de nous donner, mais est-ce que tu as dit que c'était aussi disponible dans les parcs? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un système de QR code pour pouvoir retrouver ces super-héros au fil de nos balades dans les parcs régionaux?
Ça, c'est une idée qui est bonne, mais on ne l'a pas eue. Non, non, pour l'instant, il faut que tu ailles les découvrir sur cet espace en ligne. Libre à toi, après les avoir identifiés, de prendre contact avec eux, surtout d'aller les voir, parce que je vous le rappelle, ce sont des gens qui proposent justement des expériences immersives sur leur site. Elle a parlé de pédagogie, elle a parlé d'implication, elle a parlé de sensibilisation. Vous vivrez quelque chose de différent, forcément, dans ces chambres d'hôtes, ces hôtels avec ces acteurs d'un tourisme différent.
Et alors, quelque chose qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'accueil qui est fait de ce parcours immersif. On en parlait un petit peu hier en préparant l'émission. Si jamais tout était déjà parfait, le parcours immersif ne serait même pas utile puisqu'on serait déjà dans la cadence d'un respect du vivant autour de nous. Et donc peut-être qu'on peut diviser, on va dire, trois types de publics. Quel accueil par ce que tu appelais les consommateurs ou les clients, ce qui vont vraiment être ces usagers mais qui sont dans un rapport de consommation. Quel va être l'accueil par les professionnels, que ce soit les hôteliers, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les gens qui gèrent le camping. Et quel est l'accueil par les organisations publiques, les administrations, je ne sais pas qui y est d'ailleurs, est-ce que c'est le département, la région? Là, j'imagine que c'est la région quand même, les parcs naturels régionaux. Donc voilà, pour ces trois grands types d'usagers, de personnes, comment ils accueillent ces parcours-là?
Non, mais c'est bien de le rappeler qu'en fait, c'est une enveloppe de la région qui a rendu tout ça possible au niveau du réseau des parcs. Et sans eux, voilà, on n'en serait pas là. Mais bien rappeler en fait que cet exercice, il a été imaginé pour les professionnels du tourisme avant leur clientèle. Et alors, quelle a été on a été le présenter dans des offices du tourisme, des maisons du parc, partout où on a pu être invité. Il y a eu un accueil très, très positif de la part des professionnels du tourisme qui se demandaient justement où ils pourraient trouver des sources d'inspiration pour commencer, pour savoir par où commencer parfois, et pour avoir justement des informations sur les apporteurs d'éco-solutions, des informations sur le contexte réglementaire autour de cette fameuse transition écologique, des idées de partenariat. Moi, je prône toujours l'action partenariale au niveau d'un territoire. C'est sa force, justement, pour être plus résilient, c'est d'être porteur d'une solution à plusieurs. Et oui, en un mot, cet exercice de communication engageante pour un tourisme plus positif, il a eu un accueil positif. Quoi.
Et alors, comment ça se construit? Parce que quelque chose que tu as abordé assez rapidement quand tu te présentais, c'est que tu es facilitateur et donc tu organises des moments où c'est des différentes personnes qui vont se regrouper lors d'ateliers. Comment tu construis ces parcours? Quelles sont les méthodes qui sont utilisées pour réussir à réunir tout le monde autour de la table?
Alors là, ce dont on parle, c'est une histoire qui a commencé, comme je le disais tout à l'heure, avec le Fonds Tourisme Durable de l'État. C'était plutôt déjà des bons élèves qui voulaient parfaire leur plan d'action. Mais c'est l'histoire que je racontais tout à l'heure. C'est qu'à leur contact, je me suis rendu compte de la mine d'informations que ces gens-là représentaient. On les a réunis autour d'ateliers sur la communication responsable. On les a réunis autour d'actions de formation sur la restauration durable. Et à chaque fois que je les voyais partir, je me disais mais il faut absolument valoriser tout ça. Il faut qu'il y ait un endroit unique où on puisse justement trouver tous ces passeurs, tous ces accélérateurs, toutes ces sources d'inspiration. Et c'est un petit peu comme ça qu'est née l'idée d'aller les filmer et de regrouper tout ça dans ces univers que vous retrouvez en ligne là, avec le parcours éco-solution, parce que sinon chacun serait rentré chez soi avec ses bonnes pratiques sous le bras sans que les autres ne puissent en profiter. Donc la réflexion autour de la conception de cet outil, elle s'est faite dans cet ordre-là. Voilà.
Et L'échange de bonnes pratiques, de conseils entre professionnels, ça a beaucoup de valeur également. Est-ce que vous avez pensé à la création d'une communauté, à comment ces personnes peuvent se suivre, se soutenir dans leur démarche durable?
Ouais, c'est une excellente idée de les rassembler pour justement favoriser les partages de bonnes pratiques. Et c'est ce qu'ils préfèrent. Plus que des injonctions ou des données descendantes, ils aiment s'écouter entre pairs. Ouais. Mais moi, j'ai découvert, je venais d'un autre monde que celui du tourisme, et tout naïvement, on a proposé plein de dates de rencontres. Et en fait, le temps est très, très précieux pour les professionnels du tourisme, pire encore dans celui de la restauration. Ils disposent parfois pas d'une demi-journée pour faire quelques kilomètres et se rassembler sur un espace. Mais il existe des réseaux, pas informels, des réseaux... le réseau des parcs, par exemple, propose avec la marque Valeur Parc de créer justement cette communauté à laquelle tu faisais allusion pour les rassembler autour de thématiques de cet ordre-là, d'adapter leur offre aux nouvelles exigences de la clientèle.
Oui, et puis les retours d'expérience des uns peuvent nourrir les initiatives des autres, donc ouais, c'est vertueux.
Et puis la question de la communauté, il y a la communauté des professionnels, mais c'est aussi un réseau de parcs entre eux. C'est que là, ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que tu as d'abord travaillé pour le parc des Alpilles, maintenant c'est le parc de la Sainte-Baume, mais malgré tout, ça reste pour un réseau des 9 parcs, c'est ça ?
Non, la bonne idée qu'a eu la région il y a quelques années, c'est d'imaginer et de créer quelques postes qui soient à l'échelle de l'interparc, donc de ces 9 parcs naturels régionaux que je vous invite à découvrir. Ils ont tous leur singularité, ils sont tous...
Est-ce qu'on peut les citer, peut-être ?
Voilà, alors là, voilà.
Non, alors je vais
bien sûr que si.
Je
alors, il y a les Alpilles, le Luberon, la Camargue, le Queyras. Moins connu, vous allez avoir les Préalpes d'Azur, les Baronnies provençales, le Ventoux, qui je crois est le dernier. Et j'ai pas parlé de la Sainte-Baume, qui est aujourd'hui celle qui m'héberge administrativement. Et forcément, j'ai dû en oublier un.
Les Calanques, du coup, c'est un parc national ?
Alors oui, pour mémoire, il y a des parcs régionaux qui ont été créés après-guerre suite à l'exode rural. Mais ces parcs régionaux laissent une place à l'économie pour peu qu'elle préserve les environnements. Les parcs nationaux, eux, ont principalement comme objectif de préserver un environnement exceptionnel. Et vous les connaissez, c'est Port-Cros, le Mercantour, les Écrins et le parc naturel national des Calanques.
Et tu parlais de la question d'avoir un rapport économique qui soit vertueux dans ces parcs, et c'est quelque chose qu'on abordera en deuxième partie d'émission lorsqu'on va vraiment passer du nous vers le tout, donc en parlant d'un peu de perma-économie. Mais on arrive déjà, ça va à toute allure, à la moitié de l'émission. Et donc Stéphane Crandall, je te laisse nous expliquer, nous présenter la musique que tu as décidé de nous faire écouter en guise de respiration.
Ah, quel bonheur de m'offrir ça, merci à toi. Vous allez écouter un magnifique duo entre Vanessa D'Amata, qui est une brésilienne que je vous invite à découvrir, et Ben Harper, que vous connaissez plus certainement, un morceau qui s'appelle Boa Sorte, et dont on parlera peut-être un petit peu après.
Avec plaisir, à tout à l'heure sur les ondes de La Forêt des Possibles 88.4.
Jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras, e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim.
There's no way, it's over. Good luck, I have nothing left to say. It's only words, and what I feel won't change.
Tudo que quer me dar,
everything you want to
demais,
give me,
é
too
pesado,
much,
não
it's heavy.
Tudo que
there's
quer
no
mim,
peace, all you want. Isn't real expectations.
as pessoas especiais. Now even if you hold yourself, I want you get you from this person who would bother you. There is a disconnection, see through this point of view. There are so many special people in the world, so many special people in the world, in the world. All you want, all you want, everything you want to give me is too much. There's no peace. All you want of me is unreal expectations. Now we're falling, falling, falling to the night.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours au 88.4 à écouter l'émission de La Forêt des Possibles en direct de 19h à 20h avec notre invité Stéphane Crandall. Pour la régie, je m'entends parfois un tout petit peu grésiller, comme ça, ça sera parfait. Et nous parlons toujours de la question de l'écotourisme dans le réseau des parcs régionaux de la région sud. Et pour celles et ceux qui l'auraient loupé, la question à 1 million, il y avait un dernier parc qui n'avait pas été mentionné, et c'était le...
Verdon. Mille excuses, Odile. Ne m'en veux pas.
Je ne sais pas si on s'est entendu. Je ne suis pas sûr que l'on ait entendu, donc on va le répéter. C'était le parc du...
Le parc du Verdon. J'ai oublié le parc du Verdon. Pardon.
Eh bien, ce n'est pas du tout un souci. C'était au contraire une petite... question qui était laissée en suspens pour celles et ceux qui nous écoutent avec attention. Et donc, juste avant cette émission, on parlait de perma-économie et tu faisais une distinction entre les parcs naturels régionaux et les parcs naturels nationaux, en disant qu'il y en avait un où c'était vraiment sur les parcs nationaux la préservation de l'environnement naturel, alors que dans une approche plus régionale, ce que j'en comprends, hein, et tu pourras le reformuler, il y a une approche plus économique sur la façon de faire cohabiter les environnements naturels et humains. Et j'imagine que ça, c'est inspiré de ce que tu appelles la perma-économie, mais j'aimerais que tu en parles avec tes propres mots.
Moi, je trouvais que c'était pas mal aussi d'en parler en musique, parce que c'est ça qu'on a entendu avec ce choix que tu m'as laissé de titre. C'est qu'il y a une variété, une diversité et un métissage qui rendent les choses plus belles dans cette musique. C'est un petit peu la même chose dans nos territoires. Si chacun travaille dans son coin, il ira beaucoup moins vite que si justement il mise son passage à l'action sur des partenariats et des passerelles.
Et ça se rend possible par tout un tas de cadres, ça se rend possible par de l'acculturation aussi à vouloir travailler en commun. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ? La perma-économie, c'est inspiré de la permaculture. Peut-être qu'on peut déjà commencer par expliquer un peu ce que c'est que la permaculture et pourquoi c'est intéressant de l'appliquer aux organisations humaines.
Mais, moi, je suis persuadé que quand Emmanuel Delannoy, pour ne pas le citer, a commencé à nous parler de perma-économie, il s'était biberonné de permaculture et qu'il avait compris la richesse de cette démarche pleine de bon sens qui est qu'il faut observer la nature et la s'en inspirer justement pour bâtir nos modèles économiques et nos modèles de société. Et c'est pas du tout justement ce qui est véhiculé aujourd'hui par les récits dominants, et il faut remettre tout ça un petit peu à l'endroit. Donc la perma-économie, elle vise à s'inspirer du vivant pour faire cohabiter justement toutes ces activités. C'est très résumé, hein, mais je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Il faut s'inspirer du vivant pour remettre dans le bon ordre les priorités autour de nos, de nos économies et de nos sociétés.
Mmh. Petit clin d'œil pour le coup à ce projet de Forêt des Possibles. On souhaite aussi s'appuyer sur cette image-là de l'arbre et de l'arbre dans la forêt avec son réseau mycélium, avec ses canopées, avec ses grands arbres, ses petits arbres pour faire tout cet écosystème où finalement chaque espèce va participer au commun. Avec l'une qui pourra être la protection des prédateurs de l'autre, qui pourra apporter des nutriments encore à une autre. Et si par exemple on n'a que exactement le même type d'arbre dans une forêt, il suffit d'une seule maladie pour tout balayer, alors que quand il y a cet écosystème de variation, eh bien ça fait corps.
Et c'est en cela qu'il ne faut pas avoir peur de la complexité. Hein. Justement, plus elle sera dense, plus elle sera variée, plus elle sera, ou plus cet écosystème sera varié, dense et mixte, plus il sera résistant et plus il sera apte à faire, à répondre aux aléas, quels qu'ils soient. Et l'économie a fort à apprendre, a beaucoup à apprendre justement de ce que le vivant peut mettre en place pour faire face justement aux difficultés qu'il peut rencontrer.
Et alors, est-ce que tu sens que l'économie mise en place dans les parcs régionaux, enfin parcs naturels régionaux, ressemble à cet idéal auquel vers lequel tu souhaites te diriger ?
En tout cas, il y a une prise de conscience. On a parlé des professionnels du tourisme tout à l'heure. Ils ont entendu ce signal faible de devoir adapter justement leur offre aux nouvelles attentes. Et les attentes, elles sont diverses. Il n'y a pas que les attentes de leur clientèle. Il y a des attentes sociétales très, très fortes. Et il faut peut-être imaginer, je parlais tout à l'heure de tourisme à impact positif, il faut peut-être imaginer justement, pour que le tourisme se survive à lui-même, de profondes mutations dans la manière dont on encadre. Et c'est en cela qu'on voulait inspirer justement les professionnels, c'est peut-être avec des petites choses, mais en tout cas leur dire par quoi commencer sur les thématiques énergie, eau, déchets, transport.
La question de l'inspiration, c'est également très lié à la question des imaginaires, le fait de raconter des nouvelles histoires, des nouveaux récits, le fait de pouvoir décomposer certaines façons dont on voit les choses. Je sais que Claire, tu es également animatrice de la fresque des nouveaux récits. Il me semble que vous étiez même tous les deux déjà rencontrés dans ce cadre-là.
C'est ça, Stéphane avait assisté à la fresque que j'avais organisée en février. Donc, amusant de se recroiser ce soir juste avant que l'émission démarre.
Et moi aussi, Claire. La fresque des nouveaux récits.
Ah oui, mais c'était pas la même, c'était après. Mais effectivement, je t'ai fresqué également.
On voit que bah là, pour le coup, en matière d'écosystème, où il y a des interactions qui se croisent et qui se recroisent, ça fait corps dans cette émission. Sachant qu'il y a même l'arbre des imaginaires. Pour ce qui me concerne, j'ai pas fait la fresque des nouveaux récits, mais j'ai quand même créé ce wiki que je vous invite également à aller voir. Mais ce n'est pas le sujet pour ce soir. La question du voyage, c'est une question fondamentale sur laquelle nos imaginaires sont très largement à revoir. On en parlait un peu en préparant l'émission. Moi, il y a quelque chose qui me touche à titre personnel, c'est le fait de prendre l'avion pour partir loin pour très peu de temps. Je voulais avoir un peu ton regard à toi sur l'imaginaire du voyage. Tout à l'heure, on parlait de consommation, de consommateur. Je t'ai posé la question sur ce mot parce que je trouve qu'il est porteur d'un certain sens, le fait de l'employer et pas d'en employer un autre. On reste dans un rapport de consumérisme. Comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir une consommation qui puisse à minima avoir plus de conscience ?
Il y a plusieurs éléments de réponse et de réflexion dans ce que tu viens de dire. C'est comment, à quoi va ressembler le tourisme dans 20 ans si on veut qu'il ait un impact positif ? Est-ce qu'on pourra continuer de prendre l'avion ? Est-ce que les sociétés le permettront ? Est-ce que l'idée de Jean Covici de nous donner quelques vols dans une vie avancera et s'imposera à nous ? Je pense que tu l'as dit tout
juste
à l'heure.
Pour enrichir cette information, Jean Covici disait que sur toute une vie, on n'aurait que 4 longs courriers à faire pour rester dans sous les 2 tonnes d'émissions de CO2 par habitant.
Et par an,
voilà.
Alors, ça reste hyper pragmatique. Il ne nous interdit pas de prendre l'avion. Mais tant qu'on ne taxera pas le kérosène et qu'on pourra partir à l'autre bout du monde pour presque rien, ça ne suffira pas pour régler le problème. On ne pourra pas sensibiliser l'humanité en leur disant... Donc voilà, il va peut-être falloir la contraindre. Et cette idée, ben voilà, il a mis ça sur la table et ça a le mérite d'être posé. Mais... prendre l'avion depuis toujours, depuis le grand tour que les aristocrates faisaient il y a quelques dizaines ou centaines d'années, c'est nécessaire aussi à notre épanouissement personnel. On a besoin d'aller se frotter à l'ailleurs pour savoir qui on est, pour savoir... Pour partager, pour se découvrir, pour découvrir tout simplement. Mais peut-être qu'il faut éviter l'excès. C'est toujours pareil. L'excès est toxique. L'excès d'avion pour un week-end ou de prendre l'avion quand on peut voyager autrement. C'est ces nouvelles questions qu'il faut se poser. C'est des questions qui résonnent avec les notions de sobriété heureuse. On ne sera pas forcément malheureux de ne plus pouvoir prendre l'avion pour aller passer un week-end à Ibiza. Il y aura des alternatives et elles sont à inventer justement pour faire comprendre à tout un chacun qu'on peut continuer de voyager, mais avec un moindre impact.
Est-ce qu'on peut, par exemple, je te donnerai la parole juste après, j'ai vu la main levée claire, distinguer le voyage des vacances? C'est-à-dire que les vacances, si c'est vraiment mon, on a envie d'être vacant et donc de pouvoir se reposer, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, mais effectivement un long voyage pour aller découvrir une nouvelle culture et se découvrir soi-même, et bien là on est dans un autre rapport et sur lequel on accepte de partir loin, mais en pleine conscience. Et donc si l'enjeu c'est vraiment de se rencontrer en rencontrant les autres, et bien c'est avoir conscience de son impact, avoir conscience de pourquoi est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on y cherche et quelle est l'incidence de tout ça. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui fait sens?
Complètement. Tu viens d'y répondre, en fait. Il ne faut pas opposer vacances et voyages. Il y a des gens qui ont juste besoin de se reposer et qui vont peut-être... Il faut peut-être les accompagner plus que les contraindre. Enfin, il va falloir aussi les contraindre, mais il faut leur donner des inspirations, leur dire que voilà, l'Ariège ou le Pas-de-Calais aussi peuvent faire rêver et qu'il n'y a pas que les destinations lointaines comme le Costa Rica ou les Açores. Mais je pense qu'effectivement, il y a une dimension expérientielle dans le voyage qu'il n'y a pas dans les vacances et qui est nécessaire à l'humanité. Il faut qu'on puisse continuer de voyager. Mais je pense que ça passe justement par le renouvellement des récits. Les récits dominants aujourd'hui, ils sont gonflés à la pub et aux réseaux sociaux. C'est ça qui gangrène un petit peu justement les récits dominants. Et c'est à nous, en fait, de créer des nouveaux récits pour une société plus conviviale, plus coopérative. Et ça va passer peut-être par l'émergence d'un slow tourisme dont on parle de plus en plus, qui invite justement à vivre des expériences et pas forcément très très loin, mais qui vise justement à faire se rencontrer des gens sur un territoire. Et tu le disais fort justement, Marin, et on en apprend aussi beaucoup sur soi-même avec ces expériences de voyage.
Oui, là où je voulais encore enrichir ce que tu disais sur les leviers pour mettre en place des nouveaux récits, c'est qu'on va pouvoir, dans un premier temps, lutter contre ces comportements qui émettent du CO2, qui sont écocidaires, qui puisent dans les énergies, dans les ressources de la planète. Un deuxième levier d'action, ça va être de promouvoir d'autres façons de faire, d'autres comportements. Donc typiquement, le slow tourisme, c'est un nouveau comportement qui est en train d'émerger et qui commence à gagner du terrain, hein, clairement. Il y a de plus en plus d'initiatives, d'entreprises qui se lancent sur ce secteur d'activité. Et le troisième levier, ça va être de mettre en lumière des nouveaux héros. Et ça fait écho à ce que tu nous as présenté en première partie d'émission, c'est d'avoir des rôles modèles, d'avoir des exemples, des personnes qui font déjà partie de cette catégorie de la population qui se mettent en action et auxquelles on peut s'identifier en tant que consommateur, que chef d'entreprise. Donc, est-ce que vous aviez utilisé justement ces héros, parce que vous les avez appelés comme ça en plus dans votre dispositif. Voilà, est-ce que vous aviez conscience que ces rôles modèles pouvaient insuffler un nouveau récit?
Carrément, en fait, c'est même les gènes en fait du parcours éco-solution. On avait envie en fait de proposer de nouveaux récits, mais des récits qui font rêver, des récits qui donnent envie, qui donnent de l'espérance et surtout qui donnent des pistes d'action pour échapper à l'immobilisme ambiant, celui qui fait peur, l'immobilisme anxiogène qui empêche justement de passer à l'action, celui qui est nourri au business as usual, celui qui apporte des bonnes excuses. Et donc voilà, moi je crois beaucoup à cette notion de nouveaux récits qui participent à définir un avenir désirable et sexy, quoi.
Merci pour cette réponse et on va arriver sur la dernière partie. la dernière partie que je veux un peu plus longue que d'habitude. Et je ne t'ai pas préparé à cette dernière partie, Stéphane. Je vais te demander de fermer les yeux. Et je vais demander à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont la possibilité de fermer les yeux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au volant, de faire pareil. J'aimerais que vous vous projetiez.
Est-ce que l'équipe aussi ?
Vous pouvez, tout à fait.
Allez.
On est en 2034. C'est le même jour qu'aujourd'hui, mais dans 10 ans. On est le 22 mai. J'aimerais que vous vous concentriez dans un premier temps sur ce qu'il y a absolument autour de vous, de façon immédiate. Vous êtes heureux parce que on a réussi. On a réussi parce que cette question qu'on se posait là, il y a 10 ans, elle a réussi. J'aimerais que vous vous concentriez vraiment sur les bruits, sur les odeurs. J'aimerais que vous vous concentriez sur les sentiments qui vous habitent. J'aimerais ensuite que vous vous promeniez un petit peu autour de vous et que vous voyiez les visages, que vous les regardiez et que vous commenciez à parler avec ces premières personnes qui sont à côté de vous et que vous mémorisiez les échanges que vous avez. Puis après, j'ai envie que vous preniez un vélo et que vous fassiez du vélo pendant 30 minutes. Stéphane, ce que je vais te demander, c'est que tu vas me présenter ce qui t'est venu à l'esprit. Dans un premier temps, j'aimerais que tu me présentes vraiment ces sentiments que tu as eus. Qu'est-ce que tu as senti ? Qu'est-ce que tu as eu comme odeur ? Quelles sont les premières choses qui te sont venues à l'esprit ?
Tu nous as projeté en fait 10 ans plus tard et tu nous as demandé d'imaginer une vision désirable et réussie en fait du passage à l'action. Et soudainement, je me suis dit que voilà, ce qu'on avait réussi, c'était de se réapproprier le temps. On avait réussi à ralentir, à dégager du temps, à plus faire en sorte que le travail soit une valeur cardinale dans nos vies. Et du coup, il y avait plein de monde autour de moi. Plein de monde de disponible, plein de monde à vélo autour de moi. J'étais loin d'être seul. Et tu m'as demandé ce que je sentais, mais en fait, j'entendais surtout plein de choses et j'entendais notamment, c'est toi qui m'as mis dans cette situation, j'entendais des oiseaux et pourtant j'étais en ville. Je vous entends déjà me traiter de doux rêveur, mais c'est ça en fait que moi, dont je rêve, c'est de pouvoir que tout le monde puisse se réapproprier le temps, en disposer pour faire des choses utiles, pour faire des choses avec les autres, pour soi. Et ce ralentissement-là permettra justement de mieux ressentir, de mieux sentir et de mieux entendre justement le monde qui nous entoure.
J'ai essayé de faire un truc du mot au nous et du nous au tout. Donc au début, je t'ai demandé vraiment ce que tu ressentais toi. Puis après, je t'ai demandé avec qui tu étais autour de toi. Est-ce que tu peux me décrire là ce qui t'est venu spontanément et puis quels étaient les sentiments partagés par les gens qui t'entouraient ?
C'était des gens qui aujourd'hui ne se seraient pas retrouvés côte à côte parce que justement ils étaient pris dans les turbulences de la vie et que là justement grâce à cette réappropriation du temps ils avaient pu se poser, passer du temps ensemble, être sereins, faire le constat que ils étaient en bonne santé, qu'ils étaient apaisés, heureux et ensemble surtout. Alors ça paraît comme ça un petit peu idyllique et utopique, mais je pense que c'est le cœur de tout en fait. Il va falloir apprendre à ralentir pour pouvoir mieux ressentir. Ouais. Et je sais pas t'en dire plus si ces gens-là venaient de loin, si c'était des gens proches, si c'était des... Je pense que justement, ça va favoriser de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges, et qu'on va pas s'arrêter de voyager pour autant, mais il va falloir qu'on ralentisse et qu'on évite à tout prix les excès toxiques de toutes sortes.
Puis après, je t'ai demandé de prendre un vélo.
Ça, et c'est facile, j'en fais...
Voilà. Et en fait, dans le vélo, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que tu as vu, à quoi il ressemble le territoire, en fait. Comment ça s'organise, tout ça ?
Oh, je te vois venir, là. Pour tous les Marseillais qui sont là depuis déjà 10-15 ans, on la voit, notre ville se transforme et elle doit encore beaucoup se transformer. Et quand je t'ai dit que j'entendais les oiseaux, c'est parce qu'il n'y avait plus de voiture. Et que les piétons, rappelez-vous cette parenthèse enchantée qu'on a eue avec le Covid, où on avait plaisir à remarcher dans nos rues, à reprendre nos vélos, à se sentir mieux, du coup, parce que cet exercice physique nous fait nous sentir mieux, nous fait regarder autour de nous et nous permet de nous échapper justement de cette frénésie dans la voiture et peut-être un des premiers coupables. Donc ouais, il y avait dans Marseille beaucoup de vélos, beaucoup moins de voitures et beaucoup de gens plus apaisés.
Il faut rendre à son auteur ce à quoi ça appartient. Ça, c'est une inspiration des 2030 Glorieuses où à Marseille se trouve Arthur Lanterre qui souvent propose comme ça des voyages qui sont des voyages plein d'utopie. Et une des questions à la fin, c'est en fait qu'est-ce qui manque. Donc là, moi, je vais finir un peu avec ça en te disant, pour arriver jusque-là, c'est quoi la prochaine étape, quoi. C'est quoi le prochain truc que chacun peut faire quand il va raccrocher son émission?
Par quoi on commence demain? Il y a quelques années, quand professionnellement, je me demandais comment je pouvais être le plus utile à ces histoires de transition, je me suis dit peut-être qu'il fallait aller en politique, parce que justement, on n'allait pas pouvoir faire l'impasse sur des contraintes, parce que la sensibilisation, la pédagogie, c'est nécessaire, mais ça ne suffira pas. Et donc peut-être qu'il fallait participer à la construction de cette nouvelle taxation, de ces nouvelles contraintes, de ces nouvelles... Donc je pense qu'il va falloir aussi réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer ces transitions sans plus de contraintes. Mais en attendant, à l'échelle individuelle, je pense que chacun doit comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup à gagner avec cette histoire de sobriété heureuse. Se reconnecter avec les autres, avec soi-même, être en meilleure santé, mieux se nourrir, ça ne peut avoir que des impacts positifs sur soi et sur l'ensemble de la société.
Est-ce que c'est pas une incroyable conclusion, ça? Moi, je pense que si. Est-ce que tu as un dernier mot? Peut-être qu'on va répéter le nom du site internet pour que toutes celles et ceux qui nous ont écoutés puissent d'emblée se connecter dessus et aller voir. C'est...
Oui, pour qu'ils puissent continuer à voyager et participer à la création d'un tourisme plus positif. Alors, allez voir justement ces super-héros de l'écotourisme sur le parcours Écosolution que vous retrouverez à ecosolution-pnrsud.fr.
Eh bien, Stéphane Crandall, un grand merci pour cette présentation que tu nous as faite ce soir et pour ce dernier voyage. Enfin, ce dernier voyage, ce n'est pas le dernier voyage, mais pour ce voyage que nous avons eu ensemble. Merci à toi, Claire.
Merci, Marin. Merci, Stéphane.
Merci à tous les deux. Merci à Mathieu.
Et voilà, merci à Mathieu.
Sans oublier Mathieu.
Merci à toutes et tous.
Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour La Forêt des Possibles. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
የሰው ልጅ ማንነቱን እንደ ሰው ሰውነቱን ራቱን ጎልቶ ሚለካ ፍቅር ነበር ለካ ትክክለኛ ልብ የእውነት ሸማ ነች በስሜት ተቃታ ታበራለች ስለማ